France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Pour cette semaine de reprise, nous rappelons quelques bons principes relevant de l'économie alternative, sociale et solidaire. Elle crée des emplois locaux et non délocalisables. Elle participe au bien vivre ensemble. Elle ne vise pas l'enrichissement, mais prône une équité homme-femme quand elle le peut et limite l'écart des rémunérations. Et puis enfin, elle procède majoritairement par décision et choix partagés entre toutes et tous au sein d'une même organisation, qu'elle soit associative, coopérative ou entreprise sociale ou mutuelle. Avec de telles valeurs, les candidats au métier qu'elle recouvre, à savoir l'économie sociale et solidaire, sont de plus en plus nombreux. Un enseignement supérieur s'imposait. Celui-ci commence à se développer en France. C'est le sujet de ce jour.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Michel Abervé, bonjour.
Bonjour.
Michel, j'ai eu plaisir à vous lire depuis de nombreuses années à travers le blog Alternative Économique. Et on va parler, grâce à vous, du développement aujourd'hui de l'enseignement supérieur de l'économie sociale et solidaire. Ce que vous avez fait pendant 10 ans à Paris-Est, Marne-la-Vallée, qui est la première université à s'engager dans l'ESS.
Non, c'est pas la première. Les pionnières, c'était plutôt Valenciennes, Toulouse, Lyon et puis le CNAM à Paris.
Mmh. Je pose une question de Candide. Ça s'enseigne, l'économie sociale et solidaire?
Bien sûr. Ça s'enseigne comme du management, comme de la sociologie, comme de l'économie, avec une dimension particulière liée aux spécificités de l'économie sociale et solidaire, et en particulier avec la question de la gouvernance démocratique qui fonde toutes les organisations de l'économie sociale et solidaire.
Quand on voit la profusion des associations, des coopératives, des mutuelles et des fondations qui constituent tout cet énorme corpus, si on ajoute aussi les entreprises maintenant labellisées ESUS, on s'en sort plus parce qu'il y a quasiment autant de têtes que d'avis, autant de structures particulières sur lesquelles on a des informations ponctuelles, mais en tirer une matière organique, complète, pour en faire un sujet de thèse, par exemple, ça me paraît difficile.
Il y a aujourd'hui plusieurs centaines de jeunes chercheurs qui font des thèses qui ont comme point de travail des organisations de l'ESS qui étudient une thématique, un secteur d'activité. Et il y a effectivement aujourd'hui un foisonnement de recherches qui permettent d'observer, de faire un travail scientifique, d'analyse, de vérifier des hypothèses, de chercher dans les archives pour les historiens, de voir l'emprise territoriale pour les géographes, de voir l'impact économique pour les économistes, de voir l'impact social pour les sociologues, de voir les aspects juridiques pour les juristes. Tous ces corps qui constituent le savoir universitaire peuvent avoir comme objet l'ESS. Et puis, ce que nous essayons de faire à travers le réseau interuniversitaire, c'est d'avoir justement une convergence de ces différentes approches disciplinaires pour construire un savoir opératoire lié à un secteur particulier et prenant en compte ses valeurs particulières.
Vous avez effectivement parlé du réseau interuniversitaire de l'ESS, dont vous êtes le trésorier, qui regroupe aujourd'hui, alors vous êtes en train de classer par ville le niveau de formation, 19 licences, 39 masters, 17 formation autre aussi proposée par tout ce réseau universitaire qui prouve un réveil, un intérêt. Mais alors, question subsidiaire, à la sortie de cette formation, on produit des cadres de l'ESS? Ça paraît contradictoire, être cadre dans l'ESS.
Pourquoi l'ESS, qui a dans ses organisations soit des petites structures qui ont besoin de gens très polyvalents, soit des grandes structures qui peuvent avoir plusieurs milliers de salariés, pourquoi elle aurait moins besoin de cadres que une organisation classique publique ou privée?
Non, mais c'est la rigidité de la fonction qui paraît contradictoire avec la fragilité ou la flexibilité, qu'est-ce que j'aime pas ce terme, la souplesse de cette économie.
Alors, vous pouvez dire manager alors.
Oui, mais ça, vous voyez, Michel, ça va choquer certains auditeurs, certaines auditrices qui vont dire, on fait du management dans un milieu associatif?
Eh ben, heureusement qu'on manage les ressources humaines. Quand on a des organisations qui ont plusieurs centaines de salariés, Il faut travailler avec eux, leur donner des cadres de travail, mais aussi des perspectives. Et puis, une entreprise de l'économie sociale, c'est une activité économique, ça fait des achats, ça communique. Pour ça, il y a besoin de compétences. Et ce qu'on essaye de faire à travers nos formations universitaires, menées dans 40 universités à travers toute la France, y compris à La Réunion, c'est de donner ces compétences au service d'organisation un peu particulière, avec cette implication des personnes, avec cette capacité à innover dans un certain nombre de réponses à des besoins sociaux émergents.
Michel Abervé est avec nous aujourd'hui dans les carnets pour parler de ce développement qui apporte des solutions dans notre optique du journal des solutions à au développement de l'économie sociale et solidaire à travers différents diplômes. On va vous donner des exemples. Dès la licence, on peut trouver des diplômes spécialité ESS, licence professionnelle le plus souvent, qui sont par exemple, il y a un DUT gestion et solidarité de l'IUT Bordeaux-Montaigne. Plusieurs universités proposent des licences professionnelles en gestion et management donc des organisations de l'ESS et du secteur associatif comme l'université que vous connaissez de Paris-Est, Marne-la-Vallée. Et puis à une échelle supérieure, au niveau master, l'offre est, dit-on, encore plus importante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ESS est en train de s'organiser de l'intérieur grâce à ce cursus universitaire et prend une nouvelle ampleur.
Ben, surtout, ce qui est intéressant à travers les masters, c'est qu'ils sont liés à de la recherche. Et donc, en économie sociale et solidaire, ces recherches se mènent en lien avec les acteurs qui sont parties prenantes de ces recherches. Elles amènent de la connaissance, elles amènent des regards extérieurs qui permettent aux acteurs de réfléchir un peu à leurs pratiques, de formaliser un certain nombre de ce qui fait leur richesse. On a donc, à travers les masters, une articulation entre une recherche qui a pour objet l'économie sociale et solidaire dans sa diversité, et puis un enseignement qui permet à des étudiants intéressés par le sujet d'acquérir les compétences nécessaires pour y travailler un jour. Parce qu'après tout, l'université, ça sert aussi à ça.
Quel type de fonction on peut prendre lorsqu'on sort avec une licence ou un master en poche?
Bah, avec une licence, on est plutôt sur un niveau de cadre intermédiaire, responsable d'un projet, responsable de communication, responsable qualité. Et puis avec un master, on a plus vocation à diriger un établissement, diriger une structure, même si on sait bien qu'il faut aussi un peu d'expérience pour pouvoir pleinement assurer les choses, même si on a un certain nombre de masters qui sont organisés aussi avec en apprentissage, on a aussi un certain nombre de masters qui accueillent des stagiaires en formation continue, qui permettent à des gens en poste de perfectionner leurs pratiques et leur donnent les éléments pour avoir une évolution, soit au sein de leur entreprise, soit de saisir l'opportunité pour changer de travail, changer de région.
Michel, ça va pas déranger ce savoir universitaire, l'organisation des structures de l'ESS, à savoir, il y a un savoir qui s'impose et qui va faire la différence par rapport aux autres membres de la structure, de l'organisme, de l'association ou de la coopérative.
Il y a aujourd'hui plus de la moitié des Français qui font des études supérieures. Ce qui serait paradoxal, c'est que l'économie sociale et solidaire dans son organisation continue à raisonner comme si ce n'était pas une réalité. Ça suppose effectivement que on sache organiser la complémentarité entre cette formation et puis l'acquis de l'expérience, l'acquis de l'histoire. C'est aussi pour ça que dans toutes les formations, les acteurs interviennent, amènent leurs expériences, que les enseignants vont aussi voir ce qui se passe dans les organisations pour parfois rectifier tel ou tel positionnement qui prend pas en compte le potentiel du jeune.
En fait, c'est ce dont l'ESS a pâti pendant très longtemps. Elle avait le savoir-faire, mais elle n'avait pas le savoir.
Ben, elle avait un savoir empirique, construit par les acteurs, et puis elle avait aussi, mais quand même, c'est pas tout récent, la revue RECMA, Revue internationale des études coopératives mutualistes et associatives, fêtera en 2021 son 100e anniversaire. Elle a été fondée par Charles Gide, qui est un universitaire et acteur de l'économie coopérative, partisan de la République coopérative. Donc, il y a 100 ans, il y avait déjà
un savoir
reconnu par les institutions. Et on voit bien comment, aujourd'hui, si on arrive à avoir dans 40 universités les enseignements d'ESS, c'est bien parce qu'il y a des enseignants qui ont porté ces projets en y amenant ce lien entre une formation et une recherche.
Sans vous poser une colle, Michel, si vous me donniez un ou deux exemples des métiers d'avenir de l'économie sociale et solidaire.
Il y a, premièrement, les métiers d'avenir de l'économie en général. Tout ce qui sont les web communautés, tous les éléments, ceux-là, l'ESS a les mêmes que les entreprises, elle a besoin de le faire. Et s'il y avait des secteurs, c'est plus dans ceux qui sont capables de transcrire les aspirations de groupes, de collectifs en organisation opératoire. On peut avoir une idée qui apparaît géniale et qui, à un moment de sa concrétisation, ne correspond pas. Il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de tester en vraie grandeur. Et aussi, peut-être une fonction un peu particulière qui pourrait, c'est justement d'être des experts de l'évaluation participative. C'est-à-dire prendre en compte les facteurs humains de la réussite ou de l'échec. Ça, il y a sans doute là, autour de cette fonction nouvelle, qui commence à esquisser, mais faire sortir l'évaluation de l'affaire des experts pour en faire une affaire dans laquelle les acteurs et les citoyens sont impliqués, ça serait sans doute un bon métier pour l'ESS.
75 formations délivrées en ce moment de l'ESS en France, avec le réseau interuniversitaire, dont le site RIUESS, on peut dire riuss.org, et puis vous aurez la liste des formations. Merci Michel Abervé.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Puis tenez un exemple concret d'utilisation des outils modernes de l'économie sociale et solidaire. Cela se passe dans les Côtes d'Armor, le fil rouge de cette semaine. Depuis 2014, grâce à une start-up sociale basée à Lannion, Local for People, sa première offre fut la création d'un réseau social local, vivredansmaville.com. 5 ans plus tard, la plateforme resserre ses missions autour des échanges de services entre les habitants. Il y a une monnaie collaborative calculée sur le temps du service rendu qui a vu le jour, le CELT, c'est normal en Bretagne. L'adhésion à la plateforme pour une somme modique garantit un suivi des services et des annonces déposées. Une partie des bénéfices réalisés est réinjectée dans des projets locaux. Et évidemment, si le projet est breton à sa naissance, il est appelé, à mon sens, à devenir national. Confiance, égalité, sécurité sont les mots-clés partagés par les créateurs de vivredansmaville.com. L'argumentaire est en totale cohérence avec les principes de l'ESS dont on vient de parler avec Michel Abervé. Je cite « Avec une banque du temps, nous pouvons économiser l'argent et partager nos connaissances et ressources localement. Ceci permet de ne plus dépendre entièrement d'une société basée sur l'argent, de se créer une vie plus épanouie et de retrouver un espoir pour le futur de nos sociétés modernes. » Fin de citation. Le site, c'est vivredansmaville.com.